France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Violette Maurice. Dans les années 20 et 30, cette sportive de haut niveau accumule les médailles en athlétisme, en football et même en course automobile, où elle affronte hommes et femmes sans distinction. Elle est la plus intrépide et la plus éclectique des sportives de notre pays, salue le miroir des sports. Mais le style de la championne dérange, inquiète même. Violette Maurice s'habille en homme, a le verbe haut et ne cache pas son homosexualité. Autant d'éléments qui lui valent d'être radiée de la Fédération des sociétés féminines sportives et interdite de Jeux olympiques à l'aube des années 30. Eh bien, 10 ans plus tard, elle collabore avec l'occupant. Alors, est-ce le ressentiment qui l'a poussée dans les bras de l'Allemagne, comme beaucoup de collabos revanchards? Et surtout, jusqu'à quel point Violette Maurice a-t-elle pu se compromettre? Aujourd'hui encore, sur ce point, la question n'est pas tranchée. Notre invitée aujourd'hui, Anne-Cécile Genre, journaliste, autrice et réalisatrice de documentaire « Violette Maurice sans contrefaçon », documentaire sorti en 2023. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct et aujourd'hui en partenariat avec le site Retro News de la BNF. Récit documentaire Margot Boudge, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
26 avril 1944. Une Citroën Traction file à travers le bocage normand. Au volant, on jurerait apercevoir un homme à la carrure massive. Mais c'est une femme qui conduit. Vite et bien, d'ailleurs. Pas étonnant, elle était une star des circuits automobiles. Mais ça, c'était avant la guerre. Maintenant, elle sillonne la France pour des trafics en tout genre et elle sert de chauffeur à ceux qui, comme elle, ont pris le parti de l'occupant. Aujourd'hui, c'est une famille entière qu'elle a prise à son bord. Les Bailleuls. Un couple de charcutiers de Beuzeville et leurs deux enfants. D'habitude, elle se ravitaille chez collaborateurs notoires. Mais là, elle s'est dévouée pour les emmener à Paris. Sur la route qui reliait Peigne et Lieuray, la grosse cylindrée accélère. Quand soudain, un attelage vient se mettre en travers de la route. Un attentat, se dit Violette Maurice, qui freine et se déporte sur le talus. Une pluie de balles s'abat sur la voiture. Tandis que la famille Bailleul s'effondre, Violette Maurice jaillit de l'auto, revolver à la main. Elle a l'habitude de se défendre. Mais face aux forces du maquis, surcouf, elle ne fait pas le poids. Violette Maurice, 51 ans, meurt, tuée par la résistance française. Pour la postérité, la voilà placée à jamais du mauvais côté de l'histoire. Terrible destinée pour celle qui fut pourtant l'une des gloires de son pays. Violette Maurice, née en 1893 à Paris au sein d'une petite noblesse fortunée. Dans cette famille, on est militaire de père en fils. Et le général Louis-Michel Maurice, qui a colonisé l'Algérie en combattant Abdelkader, est un aïeul adulé. Très vite, la petite Violette se tourne vers des jeux réservés traditionnellement au genre masculin. À l'âge de 10 ans, le sport entre dans sa vie. Au couvent de l'Assomption de Huy, en Belgique, où elle est interne, les religieuses enseignent à leurs élèves le cricket, le hockey, le basket. Il faut dire que ces demoiselles à cornettes sont britanniques. Et, dans la culture anglaise, le développement du corps est autant valorisé que celui de l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain, on connaît la musique. Pour les hommes, d'abord, mais aussi pour les femmes. Violette Maurice se passionne ainsi pour la boxe anglaise. Et comme les hommes rechignent à l'affronter en combat singulier, elle cherche des adversaires en jupons, en diffusant de petites annonces dans la presse. Mais dans les colonnes du journal L'Action, en septembre 1913, on s'insurge.
Mademoiselle Violette Maurice fait de la boxe. Il paraît que c'est là le nouveau jeu. Il ne suffit plus que des hommes se broient mutuellement le visage ou se défoncent le thorax devant un public exaltant ce violent spectacle. Il va falloir, à présent, que la grâce féminine consente à s'exhiber à son tour parmi de la violence dans la hande et rande, sous la sueur sanguinolente. Musette et Mimi Pinson devront faire assaut. Ce sera splendide. L'amour aura l'œil poché et crachera ses dents. Et c'est du sport, cela. et il ne se trouvera pas dans le monde des vrais sportsmen, des gens raisonnables et sains pour s'élever contre une aberration si funeste au sport même.
Les articles de presse, l'opinion publique, le qu'en dira-t-on ? Violette Maurice s'en moque et elle continue à boxer. Mais bientôt, les rings se vident. Et c'est dans les tranchées que se livrent désormais d'autres types d'affrontements abominables, ceux-là. En 1914, Violette a 20 ans, dans un pays à feu et à sang. Chacun, chacune, voit son quotidien basculer, son rôle évoluer. Les femmes remplacent les hommes à l'arrière, dans les usines ou dans les champs. Violette Maurice, elle, en fille de militaire, choisit le front. Son sexe lui interdit de prendre les armes, alors elle conduit l'ambulance. Et comme elle se débrouille aussi bien sur deux que sur quatre roues, on la nomme estafette. Sans rien perdre de sa crânerie, pour reprendre les mots du journal Excelsior, elle évite les obus de Verdun et fait passer les nouvelles entre les postes de commandement. Pour se mouvoir avec facilité sur sa moto, elle commence à porter le pantalon, une habitude qu'elle ne quittera pas. En 1918, l'almanach illustré Petit Parisien salue son héroïsme.
Il est au front un certain nombre de femmes courageuses. Et parmi elles, Violette Maurice, qui peut se vanter d'avoir été de l'armée de Verdun et d'avoir pris sa part de cette longue et formidable bataille.
C'est avec les honneurs qu'elle revient à la vie civile et la bague au doigt. Oh, elle ne passe pas beaucoup de temps avec ce Cyprien Gouraud, fils d'industriel qu'elle a probablement épousé dans le cadre d'une union arrangée. Elle ne le cache pas d'ailleurs. Elle préfère les femmes. Et puis, porter des enfants, tenir une maison, non merci. Elle, son truc, c'est le sport. Et rien que le sport, en particulier l'athlétisme, sa nouvelle passion. Grâce à l'héritage de ses parents, morts en 1918, elle peut choisir de consacrer tout son temps à l'entraînement. Violette Maurice ne pense qu'à une chose, la compétition. Et elle n'est pas la seule. En cet immédiat après-guerre, certaines femmes, en effet, n'entendent pas retourner à la cuisine. Durant les conflits, elles ont découvert de nouveaux métiers, de nouvelles manières de se mouvoir, de nouveaux loisirs dans les gymnases désertés par les hommes. Elles ont adhéré au premier club de sport féminin qui bientôt se structure autour de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, encadrée par des femmes. En tant que présidente de la fédération, la championne d'aviron, Alice Millat, organise les premiers championnats de foot et de cross-country. Et elle ne s'arrête pas là. En 1919, elle demande au Comité international olympique d'inclure des épreuves féminines d'athlétisme lors des prochains JO. Mais elle se heurte à un non catégorique. Pierre de Coubertin a beau être le grand rénovateur de l'olympisme, il est aussi très misogyne. En témoigne cet enregistrement des années 30.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Qu'à cela ne tienne, puisque les instances masculines les excluent, aux femmes d'organiser leurs propres jeux. Dont acte, en mars 1921, c'est l'ouverture des premiers JO mondiaux féminins d'athlétisme. Alice Millat a pu trouver dans l'International Sporting Club de Monaco le soutien qui lui manquait. Et c'est donc sur le rocher que défilent les athlètes françaises, anglaises, italiennes, suisses et norvégiennes. Les femmes seront-elles à la hauteur de l'esprit olympique, se demande une foule sceptique. Eh bien oui, ce sont les Olympiades de la Grâce, titre l'Écho des Sports. Il faut dire que les épreuves sont scandées par des démonstrations de danse et de gymnastique, compatibles avec l'idée qu'on se fait des femmes à l'époque. Mais Violette Maurice, elle n'est pas venue pour danser, elle est venue pour lancer. Son bras massif projette le javelot à 41 mètres 53 et le poids à 16 mètres 29. Alors dans les gradins, c'est l'explosion de joie. Voilà deux records pour la France qui se fait balader par les féroces anglaises dans d'autres disciplines. Violette Maurice exulte. Elle s'apprête à devenir la sportive la plus titrée des années 20, hommes et femmes confondus. Pour réussir cet exploit, elle a un avantage sur ses rivales. Elle ne pratique pas un seul sport, ni même quelques-uns, mais une vingtaine. Et nul autre n'atteint ce degré d'éclectisme. sur France Culture, les historiens Philippe Tétard et Marie-Jo Bonnet font le tour des disciplines précisément où s'illustre Violette Maurice.
C'est aussi une cycliste, une coureuse à pied, elle joue au water polo.
Elle fait du vélo, elle fait de la boxe, elle fait de la natation, elle fait du javelot, du lancer du poids, du football. Donc elle est omnisports. C'est vraiment la plus grande championne que la France ait connue.
Violette Maurice est partout, et en particulier sur les terrains de football où elle joue indistinctement à tous les postes. Le foot est son sport préféré. Et qu'importe si sa pratique est décriée par de nombreux commentateurs qui la jugent, je cite, « inadaptée à la condition féminine ». Trop brutal le foot. En 1925, c'est la consécration pour Violette. L'équipe dont elle est capitaine, l'Olympique de Paris, remporte coup sur coup le championnat de la capitale, la Coupe La Française et le championnat de France. Elle n'a perdu aucun match cette saison, s'enthousiasme le miroir des sports. Violette Maurice se taille une réputation d'imbattable, tant son énergie, sa rapidité, sa puissance impressionnent. Quand elle se lance en 1924 dans une carrière de cycliste professionnelle, en plus du reste, on ne craint pas pour sa peau, mais pour celle de ses concurrentes. « Il est douteux qu'elle rencontre jamais une adversaire digne d'elle », écrit le petit Parisien. Infatigable, en effet, Violette Maurice cherche partout de nouvelles rivales. Lucienne Velu, Colette Salomon, par exemple. Et quand ce n'est pas chez les femmes, c'est chez les hommes. Au volant de sa voiture de course, l'ex-pilote de guerre défie tout le monde. Sur les circuits automobiles mixtes, où elle est souvent la seule femme d'ailleurs, sa silhouette costaude se fond parfaitement dans le paysage. Elle est la plus garçonne de toutes les garçonnes, comme le décrit l'intransigeant.
Est-ce un garçon ou une fille ? Elle porte le costume masculin avec une telle aisance et depuis si longtemps que tous ceux qui la voient pour la première fois lui disent sans hésitation « monsieur ». Et il reste béat de stupéfaction quand de sa voix formidablement timbrée, elle rectifie « pardon, madame, madame, madame ».
Violette a beau s'habiller, se coiffer comme un homme, elle se revendique femme. Ce qu'un homme peut faire, Violette peut le faire. Telle est sa devise. Et elle ne croit pas si bien dire. Le 5 juin 1927, elle prend le départ du Bol d'Or, la course la plus populaire et la plus éprouvante du circuit. 24 heures plus tard, elle franchit la ligne d'arrivée. Elle a cassé le dossier de son siège, elle a vu s'évanouir son mécanicien, elle a crevé de soif. Mais elle est arrivée première, surclassant ainsi 18 bonhommes au terme de 1700 km d'intense poursuite. Il est rare qu'une femme puisse tenir tête à tous ses adversaires pour triompher aussi brillamment dans une épreuve d'endurance aussi dure. Salut le Figaro. À 34 ans, Violette Maurice est au firmament de sa carrière. On s'arrache ses autographes. Et puis, le CIO a enfin accepté que les femmes participent aux Jeux Olympiques. Au vrai. Il faut dire que les éditions organisées par et pour les femmes en 1922 et 1926 ont remporté un franc succès. Mais oui, n'en déplaise à Monsieur de Coubertin. Alors, Violette Maurice l'espère. Elle ira au JO d'Amsterdam en 1928 pour battre de nouveaux records au lancer. Mais catastrophe. Fin 1927, la Fédération des sociétés féminines sportives lui refuse le renouvellement de sa licence. Donc, impossible de concourir. Car la championne s'est mise à dos les instances sportives. Trop subversive, trop transgressive, trop tout, Violette Maurice.
On a fait toute une affaire, des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça, c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vienne ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça, j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les les deux pieds nickelés. Je fais les pieds au mur comme un échalote. Le grand écart et je crache un casse-pas. Je vois du gros qui touche. C'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement. Bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au car. Puis il y a que toi, faut pas le savoir. C'est moi le môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos, costauds. Avec ça j'ai l'air basse. Et une paire de pectoraux, taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. Ma gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot. Le grand écart et je crache à 15 fois. Je bois du gros qui touche. C'est moi la môme cache-cache. En acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot. Le grand écart et je crache à 15 fois. Je bois du gros qui touche. C'est moi la bombe cache-cache.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Violette Maurice, Splendeur et Déchéance.
France Inter, Affaires Sensibles.
Nous sommes en 1928. Violette Maurice, championne la plus médaillée de son temps, se voit donc refuser sa licence par la Fédération des sociétés féminines sportives de France. C'est un choc, mais pas tout à fait une surprise. Les sanctions exercées à l'encontre de la sportive se sont multipliées au cours des dernières années. La faute à son indiscipline. Eh oui, Violette Maurice a le sang chaud et elle déteste perdre. Sur le terrain de foot, elle a l'injure facile, réfute les décisions des arbitres, et n'hésite pas à décrocher un coup de poing lorsqu'elle se fait insulter par un spectateur. Elle aurait même incité ses coéquipières à se doper le temps d'un match. Pour une capitaine d'équipe, voilà bien une attitude contestable. Mais c'est surtout son port insistant du costume masculin qui dérange en haut lieu, comme en témoigne le journal La Presse.
Les dirigeantes reprochent à Madame Violette Maurice non seulement son verlangage, mais aussi sa façon de se vêtir. Non pas comme une fille d'Ève, mais en gentleman sportif nouveau style. Ce sont là deux motifs sérieux, car a déclaré la présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France à un de nos confrères, les mères de famille sont effrayées par les conséquences d'un pareil exemple. Et si nous ne prenions pas la décision de refuser à Madame Violette Maurice l'autorisation de participer à nos manifestations, elles refuseraient de nous confier leur fille.
Un mauvais exemple, c'est bien ce qu'on lui reproche. D'autant qu'à la Fédération féminine sportive de France, comme dans la société tout entière, l'ambiance a changé. Les années folles se terminent, l'ordre moral entame son retour, et la nouvelle présidente de la Fédération en est une parfaite représentante. Il s'agit d'Yvonne Legrand, qui a pris la place d'Alice Milliat en 1926. Elle est médecin, et comme beaucoup de praticiens de l'époque, elle défend une vision hygiéniste du sport féminin. L'activité physique, c'est bien pour entretenir un corps en bonne santé et surtout le préparer à la maternité. Mais pas dans un objectif de performance et pas avec la même ardeur que les hommes, la même agressivité, en adoptant des comportements virils. Il ne faut surtout pas oublier ce qu'on considère comme la vocation première d'une femme, surtout en contexte nataliste, susciter l'attirance des mâles et repeupler le pays. Alors dans ce climat délétère, Violette Maurice est observée de près. On l'accuse à mots couverts de débaucher les filles en draguant dans les vestiaires. Et encore une fois, on ne lui pardonne pas ses vêtements, une obsession. Oui, mais pour concourir, Violette arbore ce qui lui permet de se mouvoir avec le plus de facilité, le short court et le débardeur, comme ces messieurs. Inacceptable pour la commission des mœurs créée par Yvonne Legrand, qui essaie de faire appliquer à ses adhérentes le port d'une tunique large, recouvrant les bras et dissimulant les formes. Et quand on demande à Violette Maurice, respectabilité oblige, d'abandonner le complet veston qu'elle porte à la ville et de se présenter dans les locaux de la Fédé en robe et chapeau, elle refuse. Et elle écrit.
L'habit masculin n'a, à ce que je sache, rien de malséant. Tant que les lois de la République française ne m'en empêcheront pas, rien ni personne ne peuvent m'interdire un costume qui, vous en conviendrez, est toujours décent.
Voilà qui n'est pas du goût de la Fédération, qui la radie. Mais Violette Maurice n'entend pas se laisser faire, pas le genre de la maison. Alors fin mai 1928, elle attaque en justice pour voir entraver sa carrière, je cite, « sans motif sérieux ». Et elle réclame 100 000 francs de dommages et intérêts. Dans l'attente de son procès, elle continue de mener sa vie comme elle l'entend. Elle est désormais divorcée, s'affiche en couple libre avec un autre champion, Raoul Paoli, et clame haut et fort son amour pour une femme, une certaine Gisèle. Elle est d'une indifférence totale à ce que peuvent penser d'elle hommes et femmes, observe le Miroir des Sports, non sans une certaine admiration. La preuve, en 1929, elle se fait retirer les seins, une double mastectomie qu'elle affirme avoir subie pour des raisons pratiques. Oui, son opulente poitrine l'empêchait de se mouvoir confortablement dans l'habitacle étroit de sa voiture de course. Voilà ce qu'elle déclare à Paris Midi.
Pour moi qui mène une vie active, c'était comme un sixième doigt à une main. Un sixième doigt est gênant. On le fait couper. C'est la simple logique. Il ne s'agit là ni d'esthétique, ni du goût de l'excentricité. Le sport est toute ma vie. Je ne m'embarrasse pas du reste.
Dans la presse, certains s'amusent de ce geste d'une femme décidément hors norme. Mais d'autres condamnent le sacrifice de ce molorier de l'amour qui est l'un des attraits les plus charmants de la femme. Je cite un quotidien. Et puis on s'interroge. Provocation ? Haine de son propre sexe ? Autant de questions que le procès va aborder. Le 26 février 1930, c'est l'affluence des grands matchs au tribunal civil du Palais de Justice de Paris. Violette Maurice est là pour l'ouverture des débats qui l'opposent à la Fédération des sociétés féminines sportives de France. En complet veston bleu foncé, elle pose aux côtés de son avocat qui lui porte une robe, mais c'est le métier qui veut ça. En tout cas, Maître Henri Lotte doit convaincre la Fédération que la Fédération a outrepassé ses prérogatives en excluant la championne au motif qu'elle s'habille en homme. Et il en est sûr, l'avocat, il va gagner. Il a la loi de son côté. Parce que rien n'interdit aux femmes, en effet, de porter le pantalon, si ce n'est une ordonnance de 1800 tombée en désuétude. De Georges Sand, à l'archéologue Jeanne Dieu Lafoy, nombreuses sont les femmes à avoir opté pour un look masculin à travers l'histoire. L'avocat est également certain d'aller dans le sens du progrès. À l'audience, il demande. Et enfin, pourquoi refuser à vos sœurs l'égalité devant le pantalon, vous qui la réclamez devant la guillotine ? Il s'adresse précisément aux deux avocates choisies par la Fédération, Yvonne Netter et Simone Weiler. Sur le papier, nul ne peut accuser ces professionnels du barreau d'être réactionnaires. Elles n'ont rien de dame patronesse. Au contraire, elles militent pour le mouvement de réforme sexuelle et le droit de vote. Mais pour ces féministes réformistes, Violette n'est pas du côté de l'émancipation des femmes. Et c'est ce qu'elles entendent bien plaider. En portant le pantalon, et plus encore en se faisant retirer les seins, Violette Maurice n'a rien fait d'autre que trahir son propre sexe, qui ne va pas sans certaines servitudes. Yvonne Netter déclare.
La femme française est restée toujours femme, malgré son activité. C'est son triomphe, et c'est aussi sa sauvegarde. La coquetterie si vantée des femmes n'est pas du tout un obstacle à leur développement, pas plus intellectuel que moral. C'est une condition sine qua non de la réussite des femmes. Et c'est l'avis de nombreuses féministes.
À les entendre, on mesure combien le combat féministe peut s'apparenter à un numéro d'équilibriste. Car il s'agit de revendiquer des droits tout en se montrant rassurante sur le fait que leur obtention ne menacerait en rien les hommes. Violette Maurice, elle, n'a jamais cherché à rassurer. C'est bien ce qu'on lui reproche. Alors aux deux avocates de faire valoir qu'en la suspendant, la Fédération n'a fait que défendre, je cite, son intérêt supérieur. Autrement dit, préserver son image, attirer les jeunes filles vers le sport et s'assurer le maintien des fragiles subventions dédiées au sport pratiqué par les femmes. Maître Lhôte a beau essayer de faire vibrer la corde patriotique en rappelant que c'est en défendant son pays que sa cliente, ancienne héroïne de guerre, a commencé à porter le pantalon. Mais la partie est perdue. Et le jugement tombe. Violette Maurice est déboutée. Pour elle qui ne vit que pour le sport, la déconvenue est vraiment sévère. D'ailleurs, elle exprime vertement son ressentiment vis-à-vis de la France dans un article aussitôt censuré et qui dit « Nous vivons dans un pays pourri par le fric et les scandales, gouverné par des fraseurs, des magouilleurs et des trouillards. » Mais il faut rebondir. Privée de sport, à l'exception de la course automobile, Violette Maurice se réfugie dans les affaires. Le magasin de pièces mécaniques ouvert à son nom lui sert un temps d'exutoire. Mais l'ex-championne n'a pas la bosse du commerce. Et c'est la faillite en 1931. La crise économique est passée par là. Jamais découragée, elle entend bien rebondir. Son style dérange dans les stades. Elle l'affichera dans des espaces où les personnalités qui brouillent les sexes sont tolérées et admirées. Surtout si elles sont hautes en couleur, comme Violette. Cet espace, c'est le Music Hall. En 1935, le journal Le Jour s'étonne de l'avoir chanté parmi des hommes.
Au dernier concours des ténors organisé par Comédia et qui devait faire sortir de l'ombre un inconnu bien doué, se présenta, mêlé à la foule des concurrents, un jeune et vigoureux garçon, taillé comme une basse chantante, mais de qui émanait une voix haute et légère, très agréablement colorée. Quand on appela, sous le numéro 48, Monsieur Paul Maurice, le jeune concurrent chanta, dans un bon style, haut de beautés égales de la Tosca. Sans décrocher de prix, il obtint quand même de gros succès. Or, on apprend aujourd'hui que ce ténor était une femme, Violette Maurice.
Eh oui, Violette Maurice chante. Lorsqu'elle reprend des standards du répertoire masculin dans les cabarets ou à la radio, elle est applaudie. Oh, pas au point de devenir une figure de la chanson comme Joséphine Baker, que Maurice d'ailleurs a souvent promené dans sa voiture de course. Mais bon, elle a son petit succès. Et puis c'est une période où elle ne fait plus la une des journaux. Jusqu'à cette fin d'année 1937, où elle tue un homme et bascule dans la rubrique Fait divers. Cet homme, c'est Joseph Le Cam, un ex-légionnaire connu pour sa violence et son alcoolisme. Le 26 décembre, il s'introduit sur la péniche à marée en bord de Seine où réside Violette Maurice. Voilà plusieurs jours qu'il menace l'ex-championne qui serait allée raconter à un ami que lui, Le Cam, entretient une liaison avec sa femme. Alors évidemment, ça l'a mis foudrage. Et cette fois, il est armé d'un couteau à cran d'arrêt et il se fait menaçant. Violette Maurice tire plusieurs balles de revolver, l'homme meurt sur le coup. Incarcérée, elle est rapidement relâchée. Légitime défense. Ce n'est pas très sportif, mais il était dangereux, déclare l'ex-championne aux médias en quête de souffle. Alors Violette Maurice fait de nouveau parler d'elle. Décidément, cette femme est capable de tout. Travestie, athlète, pilote de course, amazone, mécanicienne, chanteuse et maintenant meurtrière. Quand Paris Soir lui demande quels sont ses projets, elle répond qu'elle brigue désormais une carrière d'aviatrice. Mais la guerre met le feu à l'Europe, une fois de plus. Et bientôt, c'est la débandade pour les troupes françaises. Le vert de gris prend ses quartiers dans la capitale.
Paris n'a pas brûlé. Le 14 juin 1940, les Allemands y sont entrés sans coup férir. Le 16, ils défilent musique en tête. Le 22 juin 40 à Rotonde, dans le wagon du 11 novembre 1918, le général Hunziger, au nom du maréchal Pétain et au nom de la France, signe l'armistice.
Paris est occupé, Violette Maurice a 47 ans, il ne lui reste que 4 ans à vivre. Quatre ans pendant lesquels elle collabore activement avec les Allemands, et cela dès le début de l'occupation. Mais pour faire quoi? Voilà bien une question épineuse qui fait aujourd'hui l'objet d'une querelle historiographique. On peut la résumer ainsi, jusqu'où est allée Violette Maurice? Grâce à l'historienne Marie Jobonnet, qui a dépouillé les archives dans les années 2010, on sait qu'en 1941, Violette Maurice dirige un garage pour la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Elle approvisionne les aviateurs en pièces détachées, réquisitionne l'essence des résistants et sert de chauffeur à des personnalités de la collaboration. Alors, est-ce par intérêt économique et parce qu'elle espérait faire son trou dans un secteur dans lequel elle avait des affinités, l'aviation qu'elle s'est ainsi compromise? Pour l'écrivain Raymond Ruffin, auteur d'une biographie dans les années 80, Violette Maurice était bien plus qu'une collabo opportuniste. Elle aurait adhéré à la pensée nazie avant la guerre. Elle se serait rendue à Berlin en 36, au JO, invitée par le régime nazi. Elle aurait été éblouie par la vision du sport prônée par le Troisième Reich. Animée par la volonté d'en découdre avec la France qui la rejetait des stades, elle serait devenue espionne pour l'USS. Puis, elle aurait intégré la Gestapo française et au sein de la terrible rue Lauriston, elle aurait torturé des résistants, surtout des résistantes. Pour Marie Jobonnet, il s'agit d'un scénario improbable, un roman à sensation. Elle dénonce le fait qu'on ne retrouve pas d'archives écrites qui accréditent le récit de Raymond Ruffin. En 2024, dans son ouvrage « La Carlingue », l'écrivain David Alliot estime que Violette Maurice aurait bien gravité autour de la Gestapo française, mais de manière marginale, autonome. Alliot, non plus, n'a pas retrouvé d'archives témoignant du passé de tortionnaire de Violette Maurice. Enfin si, un courrier d'un certain ou d'une certaine H de Prélanet, un membre de la Résistance.
« Je ne sais pas si vous avez connu Violette Maurice de son vivant, mais si vous l'aviez vue frapper les malheureux et malheureuses victimes de la rue des Saussets, les injuriant et se livrant sur eux aux pires brutalités, vous auriez eu un des plus répugnants spectacles auxquels il est possible d'assister. »
Alors, Violette Maurice a-t-elle vraiment été une espionne doublée d'une tortionnaire? Est-ce pour cela qu'elle a été tuée sur une petite route de Normandie par le maquis Surcouf? C'est ce qu'affirme Raymond Ruffin, précisant que l'ordre d'abattre Violette Maurice par tous les moyens venait directement de Londres. Mais à en croire le journal de la secrétaire du maquis, c'est avec surprise que les résistants ont découvert que l'homme qu'ils venaient d'abattre était Violette Maurice. Donc, l'ex-championne n'aurait pas été la cible initiale de l'attentat. Et Marie Jobonnet va plus loin. C'est pour légitimer la mort des enfants Bayeul, passagers de la voiture de l'ex-championne, que la Résistance, et plus tard Raymond Ruffin, ont fait de Violette Maurice, je cite, « la diablesse, la hyène de la Gestapo ». A-t-elle été victime d'une légende noire? Peut-être. Pendant des décennies, son rôle trouble pendant la guerre a contribué à l'effacer complètement de l'histoire du sport. Depuis quelques années, des romans, des BD, des documentaires fleurissent à son sujet. Dans un contexte de redécouverte du rôle de femmes exceptionnelles, elle fait aujourd'hui l'objet d'une certaine réhabilitation. Mais le mystère Violette Maurice demeure. Cette femme qui se disait capable de tout et qui l'a si souvent prouvé était peut-être aussi capable du pire. L'enquête continue. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Donc aujourd'hui, Violette Maurice, dont nous allons parler avec notre invitée Anne-Cécile Genre. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez écrit et réalisé le documentaire Violette Maurice sans contrefaçon, sorti en 2023. Avant cela, vous avez signé un premier doc sur Alice Milia, la femme qui a probablement le plus œuvré pour la reconnaissance et la structuration du sport au début du XXe siècle. On l'a cité d'ailleurs dans le récit. C'était une suite logique d'aller de Milia à Maurice pour vous?
Alors pas du tout, parce que c'est vraiment pas du tout le même type de personnalité. Alice Milia, vous en avez dit deux mots, c'est quelqu'un qui a fait de sa vie un combat pour toutes les femmes, pour les femmes françaises, mais même pour toutes les femmes, parce qu'elle organise des compétitions internationales. Puis elle a même pas bénéficié elle-même des avancées pour lesquelles elle s'est battue, puisque donc elle est déjà assez âgée quand elle crée les Jeux Olympiques féminins. Violette Maurice, rien à voir, c'est pas du tout une militante, c'est quelqu'un de beaucoup plus individualiste. En fait, elle se fiche un peu des autres. Ce qui lui importe à Violette Maurice, c'est sa liberté à elle. Mmh. Et dans cette revendication, en fait, du coup, elle se heurte à plein de limites. Elle mesure la taille de la place assignée aux femmes dans la société à cette époque-là. Et c'est pour ça que je la trouvais intéressante. C'est que finalement, elle fait tomber pas mal de murs dans son parcours. Et par ailleurs, j'étais évidemment tombée sur des photos de Violette Maurice en enquêtant sur les sportifs de l'entre-deux-guerres. Elle est très intrigante. Je pouvais pas développer son parcours dans mon film sur Alice Millia. Et donc, évidemment, je voulais en savoir plus sur elle. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes chercheurs qui s'intéresse à elle.
Et alors, j'imagine que son parcours n'est pas représentatif de celui des sportifs de son temps. Elle est quand même assez à part. Elle est en même temps complètement dedans et aussi à part.
Oui, voilà. Alors, elle n'est pas représentative de la première vague d'adhésion à des clubs de sport par des femmes, clairement, où là, c'était des institutrices, des employées de bureau, enfin, des femmes ou des étudiantes même, quelques filles de bonne famille aussi, mais qui vont s'inscrire au club, faire les choses dans les règles, etc. Elle, déjà, elle n'attend pas ça. Elle n'attend pas la fin de la Première Guerre mondiale. Dès les années 10, elle boxe, elle nage. Et donc elle se distingue de cette vague de premières sportives. Après, des gens comme elle, des femmes comme elle, il y en a déjà, puisque comme vous l'avez dit, elle cherche des adversaires dans les années 10 quand elle boxe. Aucun homme ne veut passer les cordes, comme on dit, et l'affronter. Donc elle passe des petites annonces, elle trouve, elle a des réponses. Donc il y a notamment des Anglaises, mais il y a aussi quelques Françaises qui lui répondent. Donc il y a quelques femmes comme ça qui se construisent des carrières de sportives de façon totalement indépendante, en fait.
Alors c'est pas du tout Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen, par exemple, c'est l'institutionnelle, c'est la sportive qui fait du sport, qui fait pas de bruit, je crois. C'est un profil vraiment différent.
Oui, alors Suzanne Lenglen réussit l'exploit de devenir une icône de féminité qui va même ajouter des choses à la mode des femmes.
Féminité, pas féministe.
Non, surtout pas féministe, mais de féminité, tout en étant en réalité quand même un tout petit peu controversée parce qu'elle est pas mariée, elle le sera jamais. Et voilà, elle est en réalité, pour avoir la carrière qu'elle a, elle n'a pas une vie de femme bien rangée, Suzanne Lenglen. Mais voilà, elle est aux yeux du public la femme qui porte des robes, des fourrures, etc. Il y a d'autres femmes qui sont un peu du même niveau que Violette Maurice dans l'entre-deux-guerres, enfin un petit peu avant même. Il y a Annette Kellerman, qui est quelqu'un qui va notamment inventer le maillot de bain.
Je les note parce que ça peut faire des histoires qu'on raconte.
Pour le coup, Annette Kellerman, il y a plein de choses à raconter sur elle. Annette Kellerman, c'est un peu avant. C'est en gros avant la Première Guerre mondiale. Elle est australienne et elle vient en Europe faire une tournée des grandes courses, et notamment la traversée de la Seine à la nage, qu'elle ne remporte pas, mais elle est genre troisième, et c'est la première fois qu'une femme est classée. Et comme Violette Maurice, c'est quelqu'un qui s'est mise au sport à la base parce qu'elle avait une constitution fragile. Donc c'est intéressant, c'est des femmes qu'on a mises au sport au début pour les soigner, en fait.
Ouais.
Et qui se sont prises au jeu. Et puis voilà, il y a une autre femme qui, pour moi, a un profil un peu similaire à celui de Violette Maurice, mais qui ne termine pas de la même manière, c'est Marie Marvin, aussi.
T'as des jeunes notes.
Marie Marvin, elle a, je crois, 10 ans de plus. Elle est alpiniste, pilote automobile, elle devient aviatrice. Elle veut absolument faire la guerre, comme Violette Maurice. Elle devient poilue, elle se déguise en poilue pendant 47 jours avant d'être démasquée. Et après, elle continue à s'intéresser à tous ces sujets-là, et notamment, elle est ambulancière comme Violette Maurice, et elle, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va carrément inventer un type de suture qui va révolutionner la médecine de guerre. Donc voilà, il y a des femmes au destin fort, il y en a plusieurs, quoi.
Alors, Violette Maurice avait un destin fort, elle a été vraiment très médiatisée, hein, pour son temps et en son temps. Qu'est-ce qu'on pensait d'elle dans les médias? On l'a dit un peu dans le récit, mais plus précisément.
En gros, jusqu'à son procès, elle est pas si polémique que ça dans les médias, parce que c'est un personnage et elle amuse et elle impressionne par ses performances. À partir de son procès, en revanche, il n'y a plus grand monde pour la défendre. Il faut comprendre que, voilà, de présenter des performances et citer des phrases rigolotes, ça marche pour les journaux. Prendre la défense de quelqu'un qui est de plus en plus attaqué, il n'y a plus grand monde. Après, le procès, c'est quand même un tournant. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles très misogynes, mais qui sont très généraux, en fait, qui disent de toute façon, on savait bien que les femmes qui faisaient du sport, elles étaient toutes dévoyées, etc. Bon, et c'est exactement ce que craignent les avocates de la Fédération féminine, en fait. C'est que Violette Maurice serve d'épouvantail. Et puis après, donc, ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'elle refait une apparition dans la presse en 31, donc un an après le procès, Violette Maurice, dans une affaire de. Elle a cassé la figure d'un boxeur qui s'appelle Shapiro, en groupe, en bande organisée apparemment.
Ah, pas sur le ring.
Non, justement, donc elle a toujours pas trouvé d'adversaire, mais elle est allée lui casser la gueule chez lui. Et donc voilà, ça la met sur... sa réputation à partir de là devient extrêmement mauvaise. Et après, voilà, il y a l'affaire de 1937, le légionnaire,
oui.
Qui donc termine d'enterrer sa réputation. Quoi.
Mais légitime défense quand même.
Oui, oui, bien sûr. Mais, ouais. Mais voilà, ça n'empêche que dans la presse, avant, elle était présentée avec plein d'adjectifs différents. On parle de la championne, de la pilote, du phénomène, mais plutôt de côté, le côté positif. Après son procès, c'est seulement la femme habillée en homme. Il suffit de dire ça, on sait que c'est elle, en fait.
Oui, on l'a dit aussi dans le récit, on a cité la suicide des cinéastes nous écoutent. Il y a un bon biopic à faire.
Hein. Ouais.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Anne-Cécile Genre, la vie de Violette Maurice est tellement riche et rocambolesque que nous n'avons pas eu le temps de parler du couple qu'elle a formé avec la comédienne Yvonne Debray à la fin des années 30. Et par ce biais, elle a rencontré Jean Cocteau, elle l'a hébergé dans sa péniche. Pouvez-vous nous parler de ce moment assez people de sa vie?
Oui, alors elle habite sur une péniche, Violette Maurice, avec Yvonne Debray, qui s'appelle La Mouette. Et à cette péniche est amarré un petit bateau qui s'appelle le Scarabée. Et en gros, elle prête le Scarabée à Cocteau en 1939, en gros au début de la drôle de guerre, parce qu'il se languit, parce que Jean Marais est parti en service militaire le long de la ligne Maginot. C'est à ce moment-là que Cocteau va écrire une pièce qui s'appelle Les Monstres Sacrés, qui est très clairement inspirée d'Yvonne Debray, écrite pour Yvonne Debray, peut-être inspirée de son couple avec Violette Maurice. Ça, c'est pas vérifié, mais c'est ce qu'on dit. Et à ce moment-là, Violette Maurice se rapproche pas mal de Cocteau parce qu'elle a une voiture et elle l'emmène, en fait, retrouver Jean Marais le long de la ligne Maginot. D'accord. Et ça, pour le coup, Cocteau a écrit sur Violette Maurice dans son journal.
Alors, elle a chanté aussi. C'était quoi? Une parenthèse dans sa vie? Le musical?
Non, pas du tout. Alors, ce qui est génial avec la numérisation des archives, c'est qu'on retrouve son nom dans plein de programmes de TSF. Et donc c'est pas du tout une passade, c'est pas un concours que vous avez raconté, la Starac des ténors. C'est non, en réalité elle a tout un répertoire. À un moment elle chante avec un orchestre de cigane, à un moment elle fait de la chanson lyrique, et puis surtout elle se produit dans des cafés-concerts, notamment le Poulailler, où pendant plusieurs années elle a une revue. Voilà.
D'accord.
Et on n'a pas retrouvé, bien sûr, d'enregistrement. Moi, j'aurais adoré, notamment chez Radio France, on a cherché. Elle est comparée à un ténor, enfin, je ne sais pas si on dit ténor, d'ailleurs, un chanteur de l'époque qui s'appelle Cherubini, je crois, quelque chose comme ça. Et qui a une voix un peu androgyne.
D'accord. Alors, on n'entend pas, on ne va pas l'entendre chanter, mais on va l'entendre parler. Parce que lors de la préparation de votre documentaire, vous avez trouvé une archive inédite de la voix de Violette Maurice, la seule connue à ce jour. Bon, il faut tendre un peu l'oreille, mais ça va, on entend bien sa voix quand même.
Je suis enchanté qu'il fasse beau temps, parce qu'il est donné de pas avoir gagné. Voilà.
Vous êtes fatigué?
Je suis pas fatigué, mais je peux plus parler.
C'est dur comme épreuve.
D'où vient cette archive? Où vous trouvez?
Ah, c'est une source assez classique, c'est Gaumont Pathé. Mm-hmm. En revanche, on ne s'attendait pas à la trouver dedans. En fait, on cherchait sa victoire au Bol d'Or en 1927, qu'on n'a pas trouvé. Mais du coup, on a cherché toutes les images de Bol d'Or et de course automobile de l'époque. Et voilà, elle est. En fait, comme elle n'est pas gagnante, elle n'est jamais annoncée. Au début, il y avait tout un reportage sur les gagnants. Mais elle, on a trouvé ça dans les dernières secondes. Voilà, on était assez émus.
Alors, elle était aussi beaucoup photographiée, filmée, caricaturée. Parfois, elle s'est mise en scène elle-même. Quelles sont les images les plus intéressantes, finalement?
Ah bah, y en a une qui est super, où elle pose devant un miroir. Donc en fait, elle noue son nœud de cravate en se regardant dans le miroir. Mmh. Et on est chez elle, a priori sur sa péniche déjà. C'est en 1926, elle a 33 ans. Clairement, c'est elle qui a convoqué les photographes. Et c'est rigolo, c'est un peu comme... moi, c'est sur mon frigo, par exemple, j'ai plein de photos. Vous voyez, ben, elle, autour de ce miroir, il y a toutes les photos qu'elle a pu accumuler, qui comptent un peu pour elle. Donc il y a des photos d'elle enfant, des photos de sa famille, un petit dessin de Betty Boop sportive. Enfin, c'est pas Betty Boop, c'est une sorte de Betty Boop française. Mmh. Et voilà, donc je pense que c'est un moment... C'est une photo où elle dit beaucoup d'elle, en fait.
Et quel genre de physique elle est? Elle est costaude, elle est athlétique, ou c'est une femme plutôt menue? Elle pourrait très bien être menue, être sportive et être performante.
Elle est très costaude. Après, ouais. C'est normal aussi quand on fait du sport à ce niveau-là. Mmh. Elle fait beaucoup d'haltérophilie hein, aussi. Elle a posé notamment avec des haltères, ce qui est voilà, elle a des muscles, des épaules très développées.
Alors, on va parler maintenant des choses qui fâchent et on termine avec ça, ces actions de collaboration. Alors, à quel niveau? Parce que, apparemment, oui, elle a collaboré, oui. Mais est-ce qu'elle est allée jusqu'à torturer? C'est le, dans la question qu'on pose concernant sa collaboration, c'est le niveau de collaboration. Alors, quelle est votre école, vous?
Alors, moi déjà, je n'ai pas vraiment d'opinion. Je ne suis pas chercheuse. Il y a des chercheurs qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Ce qui est problématique dans tous les livres qui ont été écrits sur elle dans les années 80 par Raymond Ruffin, c'est que Raymond Ruffin était très proche des résistants normands. Et donc, il a entendu tous ces récits sur le fait que son assassinat était commandité par Londres, etc. En réalité, ils avaient plutôt intérêt à se défendre s'ils l'avaient abattu par erreur.
Oui.
Par ailleurs, Marie-Jo Bonnet, donc vous l'avez cité, a beaucoup cherché des preuves de sa participation à la Gestapo. Alors, elle a trouvé plein de preuves de sa collaboration. Et ça, c'est déjà beaucoup.
Et pas... Son atelier, déjà. Alors, pour la Luftwaffe.
Voilà, il y a la Luftwaffe,
L'essence piquée aux résistants.
Voilà.
Ça, c'est quand même un acte de collaboration. Hein.
Oui, et puis elle est chauffeur pour Tristan Dujonchet, qui est chargé de recrutement, enfin, qui est chargé de la division Charlemagne, qui est le recrutement des SS français. Enfin, du coup, elle traîne quand même avec des gens peu recommandables de cette époque. Il y a une photo qui fait polémique où elle est en uniforme allemand avec tous les autres chauffeurs de cette époque, de cet entourage-là. Donc voilà, elle traîne avec ces gens-là. Une autre chose qui la dessert beaucoup, c'est et je pense que la légende noire potentiellement vient de là, c'est que elle traîne avec la pègre parisienne et notamment son voisin de péniche, c'est Joe la Terreur, Georges Hainaut, qui a été garde du corps de Stavisky notamment et qui est donc très très polémique, qui lui-même traîne, je sais pas vraiment quels sont les liens, mais avec la bande de, il y a Bonny, pas la bande à mono hein, mais
Bonny, oui,
Pierre Bonny et Henri Lafont, donc
ça,
la Carlingue.
C'est la Carlingue, exactement.
Voilà, et c'est ces gens-là qui, dans les années suivant la guerre, pendant leur procès, accusent Violette Maurice de tous les maux. Parce que ça doit bien les arranger, en fait. Elle n'est plus là. Elle ne peut plus se défendre.
Et donc, il y a une légende noire, quand même. Il y a une réalité et une légende noire.
Bah, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait.
Non,
en tout cas, elle ne peut pas répondre.
Bien, merci infiniment, Anne-Cécile Genre. Au revoir.
Au revoir, merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Violette Maurice, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Vincent Dezière.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.